Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
7h25, nous sommes de retour et j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Jusqu'à 8h, c'est la maison avec Christian Pessé. Après, on enchaînera avec la forme et la santé avec le docteur Christian Ekia qui nous fait l'amitié d'être avec nous en ce samedi matin encore une fois. On évoquera l'hygiène à la maison avec Christian. Et puis, que manger aussi quand on est confiné? Vous avez fait les courses, Christian Pessé? Ça va?
Oui, 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 deux fois.
Deux fois
depuis le début du confinement. J'ai une moyenne grande surface, pas très loin.
Donc c'est pratique.
C'est très bien géré. Ils font rentrer flux pour qu'il y ait une trentaine de personnes, je crois, ou une cinquantaine dans le magasin. Donc pour l'instant, pas de souci de ce côté-là. Et puis il y a aussi les petits commerçants. N'oubliez pas, moi j'ai deux petits commerçants, dont mon boucher qui livre à domicile. Donc c'est quand même.
Donc vous l'appelez et vous lui dites
une côte de bœuf de 3 kilos.
Oui, non, bien sûr. Ça, c'est votre quotidien.
Bien sûr.
Bon, on va maintenant évoquer le bureau à la maison. C'est vrai qu'avec le télétravail, il faut s'organiser pour se créer son petit cocon, de travail.
Oui.
Et on va en parler maintenant avec, bien sûr, vos témoignages et vos questions au 32-16, dès maintenant.
Voilà, on va en parler et avec Rémi Poisson, qui est directeur marketing chez Habitat, qui a fait une étude là-dessus et qui donne des conseils. Alors, avant de lui passer la parole, je vais vous donner un conseil de base. Il faut faire attention. Vous en avez pour un moment. On en a pour certainement bien plus longtemps que ce qu'on a dit. Il ne faut pas que votre poste de travail encombre et envahisse la maison au point de la rendre difficilement habitable et de générer des conflits. Ça veut dire que la première des choses à faire, c'est de déterminer l'espace dans lequel vous allez travailler. Parce que, notamment avec les ordinateurs portables, on va avoir tendance à se mettre au bout de la table de la salle à manger. Et puis au début, ça va être simplement le poste lui-même qui va encombrer. Et puis on va mettre une feuille. Et puis on va mettre un équipement. Et puis on va mettre, etc. Et on n'en sort pas. Donc il faut choisir peut-être une pièce de la maison, si vous en avez la possibilité. Un coin dans le salon, en vous privant peut-être un peu du salon pendant quelques jours. Il va falloir aussi peut-être penser au sous-sol. Vous avez peut-être une voiture dans laquelle vous avez que vous avez garée dans le sous-sol. Mmh. Eh bien, peut-être que vous pouvez la sortir et la mettre un petit peu plus loin. Et puis, vous libérez un espace de travail. Et puis, la solution que moi, j'ai choisie parce que j'ai cette chance, j'ai une assez belle véranda. Donc, j'ai une véranda avec deux postes de travail, puisque on parlait d'Annie tout à l'heure, mais nous travaillons en équipe, donc nous travaillons à deux dans cet espace avec la fameuse imprimante qui me fait des soucis.
C'est vrai qu'on a pas mal de messages sur Direct Studio. Hein. Est-ce que vous avez pensé à nettoyer les têtes d'impression, nous dit Manu?
Oui, oui.
Regarder les outils d'entretien dans les menus, voir s'il n'y a pas un programme de nettoyage de la cartouche.
Ça. C'est pas ça, parce que c'est.
Susan a eu le même problème que vous. Il fallait faire un nettoyage des têtes d'impression aussi. Mais, enfin voilà.
En l'occurrence, c'est une laser, donc il n'y a pas de tête d'impression. Hoki 342, je fais un appel au peuple, si vous voulez.
Ah oui, c'est une imprimante laser, donc vous avez un tonnerre en fait, c'est pas une cartouche.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on appelle le tonnerre,
Voilà. Voilà.
D'accord.
Donc voilà, ce sont les conseils de base. Attention de ne pas envahir le reste de la maison et de la famille, parce que sinon vous allez aller au conflit et ça va être là invivable.
Et je rappelle qu'on est en confinement.
On est en confinement, effectivement. Alors ne nous battons pas en plus. Alors nous avons Rémi Poisson qui est au téléphone, que je vais garder pendant le fil de cette émission. Bonjour Monsieur Poisson.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur marketing de Habitat, tout le monde connaît Habitat évidemment, et si je vous ai prévu dans cette émission, c'est parce que vous avez publié un communiqué de presse cette semaine que j'ai trouvé intéressant. Alors pour commencer, je dirais quels sont les équipements qu'il faut prévoir, je sais pas, table, chaise, rangement, est-ce que c'est possible véritablement de s'organiser, est-ce qu'il y a des conseils là-dessus, et notamment je pense peut-être à la question des chaises.
Oui, absolument. La question des chaises est primordiale parce que vous allez passer un bon moment à votre bureau. Si vous êtes en télétravail, vous allez y passer 6, 7, 8 heures, après le temps que vous passez au travail habituellement. Donc la chaise de bureau est idéale. Alors, le mieux, c'est la vraie chaise de bureau,
oui.
La chaise de bureau pivotante.
Mais c'est rare qu'on en ait dans le salon, quoi.
Très rare. La chaise de rouleau pivotante avec des roulettes, c'est très rare. Donc, vous pouvez prendre une chaise, une chaise de salle à manger, de la salle à manger. Si elle est capitonnée, si elle est en tissu, si elle est rembourrée, c'est mieux.
Oui.
C'est beaucoup plus confortable. Malheureusement, si vous n'avez pas cette chaise-là, vous prenez une chaise en bois ou une chaise en plastique et puis vous lui ajoutez un petit coussin ou un plaid dans le dos.
Ouais, je crois que
plus confortable.
Voilà, le coussin dans le dos pour tenir les reins, c'est essentiel. Hein. Parce que, évidemment, ces chaises sont faites pour y être le temps d'un repas, mais pas pour y être une après-midi entière ou une matinée entière. Donc, vous êtes d'accord là-dessus, hein, un coussin.
Hein.
Donc, alors, la hauteur des tables, parce que la table à salle à manger, c'est pas forcément
la bonne table.
La bonne table. Est-ce qu'il faut pas essayer de dénicher une table des fois plus petite, mais quelle hauteur?
Alors, la hauteur standard pour un bureau, grosso modo, c'est 73, 74, 75 centimètres.
Ouais.
On peut aller un peu plus haut à 90 centimètres. Il faut pas que les jambes tapent. Si vous avez des grandes jambes ou si vous êtes un peu grand, si vous êtes un homme un peu grand, c'est mieux de prendre un peu plus haut. Mais autour de 74 centimètres, 75 centimètres, on est plutôt bien installé.
D'accord. Donc, faire le tour de la maison, voir quelle est la table qui est à 75 centimètres plutôt qu'à 90, évidemment, parce que là, on va risquer peut-être d'avoir mal dans le dos parce qu'on va se redresser de trop.
Oui, absolument, absolument. Il faut éviter d'être trop penché. Il faut garder le dos droit. C'est pas toujours facile, évidemment. Mais 75 centimètres, c'est bien, notamment pour travailler sur un portable.
D'accord. Bon, côté rangement, mais là, on va bousculer le rangement qu'on a dans sa maison. Une question tout simple aussi. Une structure comme vous, là, en ce moment, vous fonctionnez ou vous livrez, vous faites quelque chose ou pas?
Oui, absolument. Chez Habitat, actuellement, on continue à livrer avec un mode de livraison, ce que l'on dit, sans contact. C'est-à-dire que traditionnellement, on entre chez le client et on installe le meuble. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On laisse tout au pied de l'immeuble sur le paillasson. Donc, il y a zéro contact avec le client, mais on continue à livrer. Et d'ailleurs, il y a une vraie tendance sur le bureau. Je voulais en parler puisque ça a dû commencer le vendredi qui a précédé le confinement. On a multiplié par 10 chez Habitat nos ventes de bureaux.
Ah oui.
Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande et notamment pour du tout petit bureau. Bureau 13L3.
On parlait de chaises, justement. Si on veut avoir une chaise ergonomique de bureau, on peut en trouver sur Internet. Alors, chez vous, mais il y a d'autres sites, évidemment,
où on peut s'équiper. Oui, on peut en trouver sur Internet. Absolument, ouais. Absolument. On peut en trouver chez nous et sur Internet. La plupart des marques d'ameublement continuent à livrer. Sur des modes effectivement sans contact, en protégeant à la fois le client et à la fois nos équipes effectivement dans les camions, les livreurs.
D'accord.
Et les équipes également d'entrepôt qui continuent à travailler.
Tiens, Marie est avec nous au 3216. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bienvenue sur RMC, vous êtes dans le Rhône.
Tout à fait.
Et alors vous êtes chef de projet, confiné forcément. Et donc vous avez dû en fait aménager une partie de votre maison en bureau, c'est ça?
Alors moi j'ai cette chance parce que c'est une chance de pouvoir travailler en home office parce que ça permet un certain confort, surtout beaucoup moins de stress je trouve quand on fait beaucoup de trajets. Donc j'étais déjà un petit peu habituée à travailler en home office, 25% de mon temps.
Donc home office, rappelons-le, c'est le télétravail, hein,
voilà,
pour parler français. Hein.
Oui.
Donc j'avais déjà un espace aménagé dans le bas de notre maison. Et puis, voyant le confinement arriver ou la situation de home office s'intensifier, je me suis dit que j'avais un bureau qui n'était pas très adapté. Donc, j'ai relooké un bureau où j'avais deux caissons en bois un peu anciens avec un plateau de verre. Et donc, avec mon mari, on a eu du nez. On est allé les derniers week-ends avant le confinement. On a eu l'idée ingénieuse d'aller
chez
un magasin de bricolage. Voilà. On a acheté deux planches un peu sympa, un peu effet faux bois. Et puis surtout, je m'étais inspirée de tutos sur YouTube de gens qui avaient repensé un peu leur bureau parce que maintenant on est tout connecté, on a besoin de prises, etc. Et donc moi, mon mari, qui a de l'or dans les doigts, m'a aidé et m'a mis des prises escamotables de façon à ce que je puisse avoir des prises USB sur mon bureau.
Ah oui, mais c'est le haut de gamme.
Haut de gamme, mais petit budget parce que le tout m'a coûté à peine 200 euros.
Ouais.
Donc je me suis fait un super bureau sympa. Donc je me suis fait un bureau d'angle. Voilà.
Et vous êtes bien, vous êtes bien assise, le bureau est à la bonne taille, etc.
Oui, absolument, absolument. J'ai un bureau qui fait, donc un bureau d'angle qui fait 80 de large. Avec d'un côté presque 200 et de l'autre côté 80. Et puis j'ai un siège de travail, parce que ça, j'ai un vrai siège pour travailler, parce que comme c'était un peu mon lieu de travail, néanmoins j'avais déjà une bonne assise. Et puis voilà, donc j'ai deux écrans, pour travailler.
Vous êtes au top, Marie, chouette. C'est très bien, parfait.
À tel point que mon étudiant, qui est lui-même confiné, me vole mon bureau.
Vous squattez votre bureau. Ça, c'est pas beau, ça, franchement.
Voilà.
Bon, Marie, merci pour ce témoignage.
Juste en aparté, si on peut se rappeler ou se recontacter, j'avais laissé un message à François sur Instagram. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que nous avons un projet d'isolation par l'extérieur de notre maison.
Oui.
Et nous sommes en plein de vie. Et vous m'avez dit que vous me mettriez en contact avec quelqu'un.
C'est moi. Quelqu'un,
c'est Christian PC. Vous savez quoi? On vous rappelle la semaine prochaine.
Hein. Super, voilà. Génial.
C'est Christian, et d'accord.
Précisez votre question, et puis si vous avez des devis ou autres, n'hésitez pas à les envoyer.
Marie, ce qu'on va faire, c'est que vous ne raccrochez pas tout de suite. On va prendre l'intitulé de votre question vraiment sur l'isolation, et on vous rappelle la semaine prochaine, d'accord?
C'est parfait. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Super émission, toujours.
C'est gentil. Merci,
à
Marie.
Bientôt, au revoir.
C'est sympa aussi le système D de Marie. C'est-à-dire qu'elle est partie d'un, de pièces de, elle a recyclé en quelque sorte son bureau. C'est plutôt sympa.
Elle a la place, quoi.
Oui, elle a la place. Ah. Rémi, ça aussi. Alors bon, évidemment, c'est peut-être à contre-courant de ce que vous faites, vous. Mais c'est vrai qu'elle a, Marie a parlé de tuto YouTube, de recyclage. C'est aussi très, très à la mode en ce moment, tout ça.
Oui, absolument. On peut recycler. On peut aussi chiner du vintage.
Oui, mais là, il y a un problème de. Oui, mais en ce moment,
il y a un problème d'approvisionnement.
Ouais, c'est pas très facile. Il y a pas beaucoup de.
Oui, il y a pas beaucoup de brocantes, de choses comme ça. C'est clair.
Rémi Poisson, j'aimerais vous interroger là sur la question de l'éclairage. C'est-à-dire que c'est aussi très important. Bon, moi, j'ai pas ce problème puisque je vous ai dit, je travaille dans une véranda. Encore qu'il peut y avoir des fois trop de soleil ou pas assez de lumière. Quel est le conseil d'éclairage que vous pouvez donner?
Alors, un absolu. Un incontournable, je dirais, pour travailler confortablement à la maison, c'est d'être à côté d'une source lumineuse naturelle.
Donc, quand
vous entendez tout à l'heure dire le garage ou le sous-sol, il faut vraiment veiller à ce que vous ayez une source de lumière naturelle, donc à proximité d'une fenêtre.
Ouais.
Pas forcément directement sous la fenêtre, mais à côté, dos à la fenêtre, sous la fenêtre, mais il faut une source de lumière naturelle,
c'est
parce
mieux.
Que vous pouvez pas travailler toute la journée à la lumière artificielle.
Bien sûr, encore qu'il y ait pas mal de gens, malheureusement, qui soient dans cette condition, couramment, je dirais.
Absolument. Donc, si vous êtes dans cette configuration, eh bien, il faut une lampe. Il faut une lampe de bureau. Il faut une lampe de bureau. Idéalement, là encore, la lampe de bureau, c'est la lampe de bureau articulée. Où vous pouvez, c'est pas très cher, c'est pas très onéreux, où vous pouvez, effectivement, orienter le halo lumineux, parce que bien voir, ça évite la fatigue des yeux.
Oui.
On travaille énormément sur ordinateur, donc il ne faut pas rajouter un stress, pour les yeux, à être un peu dans la pénombre. Donc
alors,
c'est absolument essentiel. La chaise et la lampe,
absolument essentiel.
Sont les deux indispensables.
Je voudrais en profiter pour parler électricité. Parce que il y a maintenant là, plusieurs équipements qui vont se greffer dans cette pièce. Alors attention aux rallonges. Hein. Vous pouvez avoir une rallonge avec un bloc, vous savez, une barrette qui généralement
multiprise.
A cinq prises, une multiprise. Mais enfin, on appelle ça les multiprises. C'est souvent ce qu'on met dans la prise directement.
Faut tout le monde comprendre.
Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez taper sur internet barrette. Si possible, puisque vous allez alimenter un ordinateur, si possible, avec un parafoudre et un surtenseur.
Oui.
Ça se trouve dans tous les magasins d'alimentation à l'occasion où vous faites vos courses. Il y a encore aussi ces équipements.
Mmh.
Et n'en remettez pas une autre derrière.
Un petit onduleur aussi, c'est pas mal, non?
Un onduleur, oui.
Au cas où vous avez une coupure de courant.
Surtenseur onduleur, effectivement.
Vous pourrez éteindre proprement votre ordinateur parce qu'on sait que les ordis n'aiment pas être coupé du courant comme ça d'un coup.
Voilà, tout à fait. Et puis, prenez la précaution de faire attention de ne pas vous prendre les pieds dans le fil, parce que c'est classique, c'est un grand classique de se prendre d'un seul coup, de tout arrêter, on n'a pas forcément sauvegardé, etc. Et donc, il y a une tolérance maintenant d'aller jusqu'à 8 prises sur une prise de courant classique. Alors, je ne vais pas entrer dans les gros détails. Normalement, c'est 8 prises à condition d'avoir du 2,5 mm carré. C'est-à-dire, c'est l'alimentation de la prise. Presque toutes les prises aujourd'hui sont en 2,5. Si jamais vous avez une prise un peu ancienne qui n'est qu'en 1,5, bah, l'unité est à 5 prises, mais pas plus.
Ce qui est déjà pas mal. Hein,
ce qui est déjà pas mal. Donc, voilà. On peut aller à 8 si on a donc une prise relativement récente.
Oui.
Et 5, donc, si c'est plus ancien.
Rémi Poisson, qu'est-ce que les gens achètent chez vous en ce moment en matière de home office et de bureau?
Alors, actuellement chez Habitat et notamment sur le site internet, les gens achètent essentiellement des bureaux de petite taille. Donc, ce qu'on appelle des bureaux compacts, parce que comme vous le disiez, bah, le mètre carré est un peu limité. Donc, ils cherchent à créer un coin bureau dans un espace un peu confiné, réduit. Confiné, c'est le mot à la mode. Donc, 90 cm en moyenne. Donc, plutôt des bureaux de 90 cm, on va moins vers les 1,20 m ou les 1,60 m. Ils veulent probablement créer un vrai espace, comme vous le disiez au départ, un vrai espace bureau pour avoir le sentiment d'aller au travail.
Oui, c'est ça
aussi l'intérêt, par rapport à ce que disait Christian au début. Bah, c'est comme si on allait au travail. Donc, il ne faut pas négliger aussi, on n'en a peut-être pas parlé, les petits coins de la maison. Mmh. Les petits recoins derrière un pilier, dans le coin d'un mur. Pourquoi pas l'entrée? Pourquoi pas le palier à l'étage?
Ah oui, bien ça.
Voilà, parce que
si là, on est au dernier étage.
Voilà, ou sous des combles, par exemple, aménager un petit bout de comble, s'il y a un petit bout. Alors, le désavantage du couloir et du palier, c'est que ça peut être un peu bruyant parce qu'il y a du passage. Et donc, ils achètent des bureaux, ils achètent des chaises et ils achètent du rangement. Ils achètent du rangement parce que si vous voulez, comme vous le disiez au début, éviter d'avoir le bazar du bureau en permanence sous le nez, eh ben, il faut ranger.
Absolument.
Quand la journée de travail est finie, il faut ranger.
Et moi, je donnerais comme conseil de suivre le rythme de travail qu'on avait. C'est-à-dire ne pas traîner le matin jusqu'à 11h, se dire, ah ben, j'irai, et puis finir à 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi pour commencer sa journée de travail. Moi, je pense qu'il faut conserver son rythme, et comme ça, c'est tout à fait ce qu'il faut. Les enfants, il faut peut-être aussi prévoir, puisque c'est peut-être le moment d'acheter un petit bureau pour les inciter, même les plus petits, à se concentrer sur cette table pour lire leurs petits livres, des choses comme ça.
Oui, ça fait effectivement une très bonne idée. On a des tout petits bureaux, très petits. On a même créé par une société française, la belle édition, le petit bureau d'écolier des années 50.
Ah oui, sympa ça.
Avec le trou pour l'encrier, etc. Donc c'est assez sympathique et c'est vraiment l'école à la maison.
Très bien. Rémi, pour terminer, comment vous vivez cette crise, vous, en tant que magasin d'ameublement? J'imagine que c'est compliqué. Vous arrivez malgré tout à suivre en termes de commandes, etc. Parce que bon, j'imagine que vous avez sans doute du stock, mais après, pour renouveler ce stock, ça doit être compliqué, non, actuellement?
Alors, oui, effectivement, la situation est un peu compliquée puisque l'ensemble de la chaîne logistique et d'approvisionnement est excessivement perturbée. Beaucoup de notre production vient d'Europe, c'est une de nos spécificités chez Habitat, donc beaucoup d'usines soit tournent, ou d'ateliers tournent au ralenti, ou tournent, ou sont carrément arrêtés, donc ça veut dire que les productions sont totalement stoppées, et les chaînes logistiques sont également compliquées, c'est compliqué de trouver des camions, puisque la priorité vont plutôt aux biens de première nécessité, et on le comprend très aisément. Donc c'est plus compliqué de trouver des camions pour acheminer des meubles vers nos entrepôts centraux. Et voilà, les clients le comprennent,
on
explique. Situation extraordinaire, force majeure, je dirais même. Donc on est tous dans cette difficulté. Et évidemment, parvient quand même à maintenir une activité à travers le site internet, habitat.fr, qui permet notamment de pouvoir acheter des bureaux, des chaises, du meuble de rangement. Mais les propriétaires des Français changent, effectivement.
Et avec j'imagine aussi des complexités en matière de livraison, hein. C'est plus compliqué de se faire livrer aujourd'hui avec des délais qui sont un peu plus longs, non?
Oui, alors on a adapté déjà très rapidement, dès le premier week-end, on a adapté toutes nos formules de livraison avec la livraison sans contact, comme je l'ai dit au départ. Nos clients optent volontiers pour le fait de monter les meubles, c'est quand même un service qu'on peut leur rendre. Aujourd'hui, c'est terminé, on n'entre plus du tout chez le client, on laisse soit sur le pas de la porte ou au pied de l'immeuble si le client accepte de monter, soit on va jusqu'au paillasson, donc on le monte au cinquième étage, on le laisse sur le paillasson, aucun contact entre le client et les livreurs. Le fait de signer un bon de livraison, c'est terminé. On ne le fait plus. On prend des photos de part et d'autre, mais plus personne ne se contacte. Et on est parvenu à maintenir également le flux de livraison petit produit, mais on a changé de prestataire puisque, comme vous le savez, les postes ferment, oui. sont globalement fermés. Donc c'est un autre prestataire qui fait le travail, mais encore sans contact. On laisse dans la boîte aux lettres, on laisse sur le pas de la porte, mais on ne rencontre plus personne, effectivement. Et on a réduit l'amplitude des horaires de livraison et l'arrivée également.
Enfin, en tout cas, si vous arrivez à nous laisser un bureau dans la boîte aux lettres, c'est qu'ils sont tout petits,
c'est
vos
ça,
bureaux.
Oui,
hein,
c'est
tout petit bureau.
Non, je plaisante.
C'était pour plaisanter, oui, bien sûr.
Très bien, merci Rémi Poisson. Je rappelle, vous êtes directeur.
Merci à tous les deux.
Directeur marketing également. Directeur marketing d'Habitat.
On revient dans un instant, merci Rémi. On revient dans un instant, Christian, avec place à vos questions. Benjamin sera avec nous. On va parler d'isolation de son plancher bois qui fait énormément de bruit lorsqu'il marche dessus. Ça, c'est sûr que quand on rentre tard le soir, ça fait du bruit. Hein.
Quand ça n'a pas forcément été bien fait.
Ah bon, mais est-ce qu'il y a une solution? On va voir ça dans un instant. Benjamin sera avec nous. Et puis, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions. Bricolage, déco, maison, 3216, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, 7h47, on est de retour avec Christian Pessé pour votre rendez-vous maison. Et puis juste après, il vient de rentrer dans ce studio. C'est Christian et qui a acquis un emploi du temps assez chargé, puisqu'on retrouve Christian en ce moment, en plus tous les soirs sur RMC. Notre médecin qui assure chez nous et qui distille un maximum de conseils dans toutes les émissions. Il sera là donc dans quelques instants entre 8 et 9. Christian Pessé.
Oui, François Sorel.
On accueille Benjamin maintenant.
Oui, allons-y.
Bah, écoutez, il est là.
Oui. Qu'il est là, profitons-en. Hein.
Allez, on y va alors. Bonjour Benjamin.
Bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue sur RMC. Oui,
ouais,
ça va. Ça va bien, et vous? Confiné?
Ça va. Je suis au travail là.
Ah,
qu'est-ce que vous faites?
Je suis éleveur de canards.
Ah, d'accord. Ah, bah oui, ça c'est essentiel. Hein, parce qu'après, si on n'a plus de foie gras, on est foutu. Hein.
Exactement. Tout compris.
Et le confiné de canard est bon aussi. Est important.
Ah, oui.
Oui.
Bien celle-là. Ouais. Vous en avez combien des canards là en ce moment, Benjamin?
J'en ai 1100 là actuellement.
Et ça va, c'est pas trop compliqué pour les écouler, j'allais dire.
Ouais. C'est du plein air?
Non, c'est du foie gras, c'est que le foie gras. Ouais. Donc pour le foie gras, c'est assez compliqué en ce moment parce que les restaurants sont fermés. Hein, donc.
Et oui.
Il y a un peu moins de débit, on fait des stocks, mais on va y arriver.
Ça peut se conserver, ça, quand même.
Oui.
Hein, en mi-cuit.
Oui, ça se conserve.
Voilà.
Exactement.
Un bon petit foie gras, là, moi, franchement.
Et vous êtes où, là, pour le foie gras, là?
En Vendée.
En Vendée.
À Moutier-sur-le-Lait, c'est ça, hein?
Exactement. Oui, exactement.
Très bien.
Alors, quelle est votre question?
Qu'est-ce qui vous arrive?
Question de canard. Bah, écoutez-moi, je vous appelle... Oui, non, c'est pas de canard. Je vous appelle... J'ai acheté une maison en 2014. Une vieille maison de bourg. Cette personne-là est une femme toute seule qui vivait qu'au rez-de-chaussée. Mmh. Donc, elle avait isolé son plafond en placo, laine de verre, rail, enfin, correctement.
Ouais.
Et nous, ce qu'on a fait, donc, quand on est arrivé, on a aménagé l'étage.
Ouais.
Et on a voulu récupérer ces belles poutres qui étaient en dessous.
On
a enlevé donc, le placo, le rail, les veines de verre. On l'a poncé, on a tout peint. C'était joli, c'était beau. Sauf que maintenant, dès qu'on marche au plafond, enfin à l'étage, je suis en dessous, on entend tout. Et quand moi je rentre, par exemple, le matin, tout le monde dort, tout le monde entend au-dessus.
Alors tout le monde entend. Donc, entend quoi? Des craquements ou entend les bruits de choc?
Les craquements, on entend vraiment tout. Hein. C'est comme si, je sais pas comment vous dire, on entend super bien. On entend du pas, on entend dès qu'on parle un peu, dès que mon enfant se lève, moi je l'entends tout de suite. C'est assez conséquent, quoi.
Alors, je veux dire, bon, la première solution, c'est les tapis. C'est une grosse moquette. Éventuellement même une moquette tendue. C'est-à-dire que c'est une moquette qui est posée avec, en laissant en dessous une couche textile qu'on appelle la thibaude. Et la moquette elle-même, elle est légèrement décollée du sol et de la thibaude. Elle est tendue de mur à mur. Donc ça, c'est une pose spécifique. Qui est un peu oublié parce que c'est la pose classique que vous avez par exemple dans les musées ou dans les châteaux parce que vous sentez bien quand on marche on a l'impression que c'est moelleux. Alors ça c'est un excellent isolant phonique. Donc acoustique comme on doit dire d'abord. Oui.
D'accord. Et moi en fait ma question c'était on voulait garder le plancher donc à l'étage et isolé entre les poutres en dessous seulement. Est-ce que ça, c'est possible?
Ben oui, bien sûr, c'est possible. Suivant la hauteur.
Tout en gardant les poutres apparentes, quoi, pour que ça reste.
Mais vous n'en garderez qu'une partie, parce que de toute façon, vous allez être obligé. Il faut pour ça que vos poutres, enfin, je sais pas, 30 cm de section, ça va abaisser un peu, mais la conduction va quand même se faire. Le problème, certainement, que vous avez, c'est que le parquet, si j'ose dire, n'a pas été fait peut-être dans les règles. C'est-à-dire que le parquet, il est souvent mal posé. On fait quoi? On se contente de mettre les lames de parquet en travers, si j'ose dire, perpendiculairement aux poutres ou aux solives, et on n'y met pas entre la face inférieure du parquet. On devrait avoir donc une lambourde, c'est-à-dire qu'en fait votre parquet, les lames devraient être dans le même sens que les poutres. Si c'est pas le cas, et bien ça veut dire qu'effectivement ça n'a pas été posé forcément dans les règles. Et puis surtout, on met ce qu'on appelle une bande résiliente entre les lames ou entre les lambourdes et la poutre. On a à ce moment-là, par exemple, une bande de liège qui amortit le bruit. Mais pourquoi, vous voyez bien que si la précédente occupante de cette maison avait fait cette isolation, c'est certainement pour ça. C'est parce que son plancher, il était bruyant. Et sauf à peut-être enlever le parquet que vous avez là, refaire un parquet, soit dans les règles, soit avec un panneautage, c'est-à-dire du panneau de particules d'OSB ou autre, et dessus de reposer un autre vêtement, et autant que possible, un revêtement textile. Vous pouvez aussi poser du liège, même ça existe en dalle, et là, vous aurez moins de bruit. Mais la solution qu'avait retenue votre ancienne propriétaire, eh bien, c'était effectivement celle qui permettait le mieux d'amortir. Alors, pour les craquements, j'ai quand même donné aussi une astuce. Ça vaut aussi pour les escaliers. C'est de répandre du talc sur le sol et de le faire rentrer en le balayant dans les fentes de parquet. Ça joue le rôle de lubrifiant. Ça évite donc les craquements qui résultent des frottements.
D'accord.
Voilà, c'est une astuce. Okay. Essayez.
Voilà, effectivement, l'escalier, c'est pareil.
Eh ben voilà, alors l'escalier, il y a d'autres solutions, mais là, il faut travailler, si on peut, par l'intérieur, par le dessous de l'escalier, je donnerai la recette un autre jour.
Ça marche.
Pour que vous reveniez, ça.
Hein? Ça marche.
Ça s'appelle du teasing.
Ça marche.
Ça marche.
Les escaliers, tout ça. Ouais. Personne ne comprend ma blague. Je passe à autre chose. François est avec nous au 32-16. Bonjour François. François.
Bonjour.
Oui, bonjour François. Quel joli prénom qui vous va bien.
Effectivement.
On vous écoute François. Que vous arrive-t-il?
Voilà, en fait, on a une petite fille de 6 mois et on voulait connaître l'efficacité des films thermiques sur les baies vitrées, savoir si c'est réellement efficace pour protéger du froid. En fait, on est au-dessus d'un hall d'entrée dans un immeuble. On voulait connaître leur réelle efficacité à ces films.
D'après vous, si ça suffisait, est-ce qu'on ferait des doubles vitrages? La réponse est dans la question. Ça ne sert que pour ralentir la pénétration des rayons du soleil. C'est-à-dire,
l'inverse de ce que cherche François.
Voilà, c'est-à-dire, ça ne sert que pour l'été, c'est-à-dire en thermique de chaleur, ça a une certaine efficacité.
Un peu comme dans les voitures, où on film thermique qui fait que la voiture chauffe
donc,
moins vite.
Mais en matière de froid, non, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, si vous ne pouvez pas changer vos fenêtres, vous avez quelque chose qui s'appelle le survitrage. Le survitrage, c'est faire un cadre, une vitre, et la rapporter sur la fenêtre existante. Donc, ça va vous faire, à ce moment-là, effectivement, une sorte de double vitrage, moins efficace que le double vitrage, mais qui va être beaucoup moins onéreuse. Vous pouvez même acheter ça sur Internet. Il y a des profilés qui se vendent sur Internet. Ensuite, vous achetez une vitre et vous la mettez sur ce vis, généralement avec des charnières pour qu'on puisse accéder à l'intérieur au nettoyage. Mais le survitrage a aussi une très belle efficacité contre le bruit. C'est ça, le survitrage, c'est peut-être l'avantage que moi j'y trouve. J'ai eu dans une maison autrefois, j'avais cette solution. Et effectivement, ça n'était pas mauvais. Et au niveau thermique, c'est aussi mieux. Voilà, c'est ça.
Et ça peut s'adapter également sur des baies, parce que c'est des profilés en aluminium.
Oui, il doit y avoir des solutions. Posez la question à ceux qui vendent des qui vendent donc ces profilés. Mais certains même vous montrent le profilé et vous l'envoient pour que vous puissiez le fixer. Alors sur les fenêtres en alu, je ne sais pas. En revanche, mais si, ben vous devez déjà avoir un double vitrage, non? Si c'est en alu, ça m'étonnerait que ça soit en simple vitrage. Donc vous
ça
allez.
Ça ressemble à du double, mais.
Ouais, oui, bah écoutez, voilà. Et puis vous savez, il y a un truc, hein, ça existe aussi, c'est les rideaux. Les rideaux épais, c'est oui. Pas mal non plus. Hein,
ça marche bien.
Ça marche. Hein.
Effectivement. Christian PC, oui. Merci beaucoup. Rentrez bien sur Caen. On se retrouve. Bon, on n'a plus le temps. Là, regardez, il est 7h56.